RCF. Il est des lieux rares sur la Terre où le temps semble suspendu, où l'activité des hommes qui y vivent est à contre-courant de l'agitation, des diktats de la nouveauté, de la consommation. L'un de ces endroits est le mont Athos, en Grèce. Ce haut lieu de la spiritualité orthodoxe où vivent environ 2000 moines, répartis dans une vingtaine de monastères et des centaines d'ermitages. Jean-Claude Larcher, bonjour. Vous connaissez bien, très bien, le mont Athos, où vous vous êtes rendu de nombreuses fois depuis 1974. Vous êtes théologien, laïc orthodoxe, auteur de nombreux ouvrages sur la spiritualité orthodoxe, et notamment sur la vie et l'enseignement de grands spirituels du mont Athos. Vous venez de publier aux éditions des Sirtes, Mont Athos, carnet 1974-2015, un carnet de voyage dans cette presqu'île de l'Athos, mais surtout un livre de spiritualité, notamment sur la prière de Jésus, cette forme de prière très pratiquée par les moines athonites. Alors Jean-Claude Larcher, nous allons cheminer avec vous aujourd'hui à la découverte de ce lieu exceptionnel. Est-ce que vous pouvez d'abord nous aider à situer géographiquement où se trouve le mont Athos ?
Alors c'est au nord de la Grèce, c'est une presqu'île qui fait partie d'une région qu'on appelle la Chalcidique, qui a trois branches et le mont Athos est situé vers l'est, c'est-à-dire en direction de la Turquie. Donc c'est une presqu'île qui est assez petite, 45 km de long sur 15 km de large. C'est un peu plus de 300 kilomètres carrés, ce qui est beaucoup plus petit que le plus petit arrondissement de France. Et c'est un lieu qui dépend administrativement de l'État grec depuis le traité de Lausanne de 1923, mais qui jouit d'un statut d'autonomie complète, c'est-à-dire qu'on parle de république du mont Athos. Même cette autonomie lui est reconnue par l'Union européenne. Il a le même statut que quelques petits pays comme le Liechtenstein ou autres. Et ce statut est évidemment important parce qu'une des particularités du mont Athos, c'est que son accès est interdit aux personnes de sexe féminin.
C'est ce qu'on appelle... Officiellement, on dit que c'est interdit aux femmes, aux eunuques et aux imberbes.
Voilà, bon.
C'est pour ça que vous avez une magnifique barbe, ce qui vous a permis d'entrer au mont Athos.
Absolument, mais je l'avais avant d'y entrer déjà. Bon. Et donc, ce phénomène, si vous voulez, permet une protection particulière. Le mont Athos jouit de lois spéciales. Le fait que les femmes n'y soient pas admises n'est pas considéré comme une discrimination à notre époque qui est sensible à ce genre de phénomène.
Alors on en reparlera parce que c'est un sujet sensible. Enfin, la bâtonne, on appelle ça la bâtonne.
C'est une région aussi pour laquelle les entrées sont très limitées. Il y a seulement 10 non-orthodoxes qui peuvent y entrer chaque jour et une centaine d'orthodoxes. Donc il y a une protection aussi au niveau de l'afflux pour éviter le tourisme, pour éviter des mouvements intempestifs. Mmh. Et donc y entrer suppose un certain nombre de démarches qui sont faites au préalable, des réservations.
On y accède seulement
par bateau. Il y a un accès terrestre de quelques kilomètres, mais qui est fermé. Et donc, on ne peut y accéder que par bateau et moyennant un laissez-passer spécial.
Alors, ce qui est vraiment magnifique quand on s'approche du mont Athos, c'est qu'effectivement, c'est une presqu'île très étroite. On est au bord de la mer et en même temps, c'est dominé par une haute montagne, le mont Athos.
Voilà, le mont avec un M minuscule, c'est effectivement une montagne qui culmine à 2030 mètres et qui se trouve plutôt vers le sud-est de la presqu'île. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment qu'on va trouver au mont Athos tous les stades de végétation entre 0 et 2000 mètres. Donc il y a une flore absolument formidable au niveau de la diversité, une faune également très riche. Et ce caractère montagneux permet également d'avoir des endroits où des moines très isolés peuvent vivre, parfois même sans être connus, de manière absolument cachée.
Ce sont les ermites qui sont dans des grottes.
Alors, il y a des ermites qui vivent dans ce qu'on appelle des kelias ou des califs, qui sont des petites maisons, parfois où ils vivent seuls, parfois où c'est un père spirituel accompagné d'un ou deux ou trois disciples. Parfois, il y a de vrais ermites qui vivent vraiment seuls et qui vivent parfois sur des parois montagneuses où ils accèdent par des cordes ou des échelles métalliques ou des moyens qui sont assez incroyables. On leur apporte la nourriture par le biais de poulies dans des paniers. Et il y a d'ailleurs un endroit, l'endroit où il y a le plus escarpé, où il y a les ermites les plus connus, s'appelle les poulies, du fait que précisément la communication se fait pour ce qui concerne la nourriture par des bateaux qui arrivent donc au pied de la falaise et on leur monte la nourriture de cette façon-là. Donc c'est un lieu vraiment très original, mais à côté de ça, le long de la côte, évidemment, il y a, ou un peu plus retiré par rapport à la côte, une vingtaine de grands monastères.
Alors Jean-Claude Larcher, ces monastères, vous les avez visités, vous êtes allé une quinzaine de fois faire des séjours, parfois des longs séjours, des séjours plus courts au Mont Athos. Ces monastères sont impressionnants, on les voit de la mer, on y accède à pied. Vous dites quand même que le Mont Athos a beaucoup changé entre votre premier séjour en 1974 et votre plus récent séjour en 2015. En quoi le Mont Athos a-t-il autant changé en une quarantaine d'années?
Alors, je dirais que sur le plan spirituel, il n'a pas changé. Hein, sauf que c'est vrai que lors du premier séjour que j'ai fait en 1974, la vie cénobitique, c'est-à-dire donc les monastères qui ont une organisation communautaire, n'étaient pas très nombreux. Et il y a eu à partir de cette époque une reviviscence du cénobitisme. Il y avait beaucoup de monastères qui fonctionnaient selon une organisation idiorythmique, c'est-à-dire où chaque moine dans le monastère avait son propre rythme, hein, comme le dit le mot idiorythmique.
Ils vivaient ensemble, mais chacun à leur rythme, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Ils se retrouvaient pour les offices, ou parfois pas du tout. Enfin, chacun avait une grande liberté, alors que l'organisation cénobitique ressemble à celle des monastères latins, occidentaux, où il y a une vie collective organisée. Et donc, le cénobitisme a connu un renouveau. Les monastères auparavant idiorythmiques, qui étaient d'ailleurs un peu en décadence, avec peu de moines, ont été tout d'un coup habités par un flux de jeunes moines, avec à leur tête de jeunes igoumènes, souvent formés à l'extérieur, mais qui se sont très vite adaptés au mode de vie spécifique du Mont Athos. Donc ce mode de vie-là, il existe toujours, et c'est un mode très ancien. On suit ce qu'on appelle dans chaque monastère un typikon, c'est-à-dire une organisation de la vie communautaire et de la vie liturgique qui est très précisément définie. Et ces typika, au pluriel, donc remontent évidemment parfois même au Xe siècle ou à presque un millénaire. Mais donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. Il y a souvent d'ailleurs aussi une place très importante faite à la vie spirituelle personnelle à côté de la vie liturgique collective. Et cette vie personnelle obéit aussi à une organisation, à ce qu'on appelle des canons qui sont traditionnels, très anciens. Ce qui est très ancien aussi et qui se conserve, c'est cette relation très intime qu'ont les jeunes moines avec des moines plus âgés qui leur servent de guides spirituels, qui les orientent à partir de leur propre expérience.
Alors on parlera de tout ça dans un instant, cette dimension spirituelle.
Voilà.
Quand je parle
ce qui
de
a beaucoup changé, alors oui. En revanche, c'est évidemment sur le plan matériel, c'est-à-dire que lors de mon premier séjour, on accédait avec des petits bateaux où il y avait encore un mât et des voiles prêtes à servir en cas d'avarie du moteur, qui arrivait d'ailleurs assez souvent. Et puis ces petits bateaux ont été remplacés par de gros bateaux capables de transporter des camions et des voitures, parce que le mont Athos, évidemment, a a fait beaucoup de travaux, surtout lorsque il a bénéficié d'aide de la communauté européenne. Il faut savoir que c'est un site protégé par l'UNESCO et avec des monastères qui remontent quand même pour la plupart au début du deuxième millénaire. Le premier a été fondé à la fin du Xe siècle. Et donc c'est un patrimoine historique extrêmement important que l'Europe a eu souci de restaurer, parce qu'évidemment, les moines n'avaient pas le moyen de restaurer
leur monastère. Donc à la fois, ça a été bénéfique, parce que ces monastères ont été restaurés,
tout
ce qui était
fait,
une bonne chose, et en même temps, des routes ont été créées.
Voilà.
Donc, en 74, quand vous y étiez, il fallait tout faire à pied ou à dos de mulet,
voilà.
Il n'y avait pas
donc,
de voiture, il n'y avait pas de route.
C'était le cabotage avec ces petits bateaux, on allait d'un monastère à l'autre pour ceux qui étaient situés sur la côte, autrement, il fallait aller à pied ou encore à dos de mulet. Et donc ces modes traditionnels ont été progressivement remplacés, les monastères ont acquis des voitures pour leur faciliter les déplacements dont ils avaient besoin pour aller chercher les marchandises, pour aller à la capitale, etc. Les camions pour les travaux ont commencé à circuler et même plus récemment, des taxis sont apparus qui sont internes au Mont Athos, qui ne sont pas des taxis privés, mais qui permettent plus facilement l'accès des pèlerins aux différents monastères. Et ce qui a beaucoup changé aussi, c'est l'apport de l'électricité. Quand je suis allé la première fois, l'électricité n'existait pas. Donc on s'éclairait avec des lampes à pétrole, on se chauffait exclusivement au bois, il n'y avait pas non plus de toilettes, il y avait des conditions d'hygiène qui étaient absolument épouvantables. Souvent les toilettes étaient des trous percés dans la roche qui évacuaient
directement sur la falaise.
Voilà, les excréments directement dans la mer ou sur la falaise. Il n'y avait pas vraiment de possibilité de faire des toilettes complètes. Et je dirais que ces changements ont été introduits, on a établi vraiment des moyens nouveaux aussi pour permettre à des jeunes moines qui avaient commencé à vivre dans des conditions plus confortables dans leur jeunesse et dans le monde, de pouvoir quand même s'intégrer plus facilement à une vie monastique qui aurait été vraiment trop rude pour eux.
Oui, vous le dites, Jean-Claude Larcher, dans votre livre, en fait, les hommes d'aujourd'hui ne sont plus ceux qui venaient au Mont Athos il y a 40, 50 ans et encore plus un siècle ou deux. Ils n'ont plus cette résistance physique,
absolument.
Ils ont plus l'habitude du travail de la terre.
Absolument. Beaucoup étaient auparavant des paysans, des gens qui vivaient dans des villages, dans des conditions très difficiles. Et depuis, je dirais, les années 70, les moines qui sont venus au Mont Athos sont presque tous des citadins, des gens cultivés et même des intellectuels. Bon, on trouve parmi les moines des gens qui ont fait des études complète d'ingénieurs, de médecins, et d'enseignants et d'autres professions.
RCF.
Alors Jean-Claude Larcher, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre quelque chose qui n'est pas facile à saisir quand on parle du Mont Athos ou quand on lit sur le Mont Athos. Il y a des gens qui sont dans un émerveillement sur cette presqu'île, décrivant la richesse architecturale, artistique, spirituelle. Et puis on lit aussi beaucoup de critiques, disant que le Mont Athos est un lieu dépravé. On se souvient de l'été grec de Jacques Lacarrière, qui a fait connaître le Mont Athos dans les années 70. Alors, un lieu très critiqué, critiquable, justement, dans son rapport à l'exclusion des femmes, on ne veut pas de femmes, un lieu de débauche, parfois, enfin débauche entre guillemets, de perversion sexuelle, et puis cet autre argument disant, mais c'est un lieu spirituel extraordinaire. Alors vous, qui connaissez bien le Mont Athos, qu'est-ce que vous dites sur cette question-là?
Oui, alors, Il y avait autrefois une situation qui est très différente de la situation actuelle, parce que le mont Athos n'accueillait pas seulement des gens qui voulaient devenir moines et mener une vie spirituelle, mais parfois des gens qui venaient s'y cacher dans l'anonymat. Donc il y avait même des bandits qui voulaient échapper à la police, parce qu'en arrivant au mont Athos, c'est comme dans les légions étrangères, ils changeaient de nom, donc ils n'étaient plus traçables.
Et on oublie le passé, quoi.
Voilà, et donc parfois ces gens d'ailleurs pouvaient devenir des saints. Il y a sur les fresques des quelques monastères des gens qui sont présentés comme d'anciens bandits qui sont là devenus moines et qui se sont sanctifiés. Mais certains, évidemment, sont restés là avec leurs défauts. C'est vrai que Jacques Lacarrière rapporte une agression homosexuelle qu'il a subie. Mais en fait, bon, on ne peut pas généraliser non plus à partir de là, si vous voulez. Hein. Ce sont des choses qui peut-être étaient frappantes. Il faut savoir aussi que Jacques Lacarrière, dans son beau livre, qui a contribué beaucoup à faire connaître le mont Athos en Occident à une époque où il était peu connu, rapporte aussi des cas extrêmement positifs. Il fait notamment une belle description du père Tichon, qui est un moine russe qu'il a rencontré, fréquenté, et qui était un personnage tout à fait extraordinaire, dont on garde encore la mémoire. Mais si vous voulez, ce renouveau qu'il y a eu au niveau de l'organisation cénobitique a mis beaucoup d'ordre dans la vie des moines. Il y a eu aussi un renouveau en qualité des moines qui sont venus là, avec des gens qui n'avaient pas du tout le besoin de s'enfuir ou de se cacher, mais qui étaient vraiment animés d'un véritable attrait pour la vie monastique et pour la spiritualité atonique authentique. Laquelle vie spirituelle authentique s'était d'ailleurs toujours conservée. C'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre de saints et de grands spirituels qui ont été, même pour certains d'entre eux, récemment canonisés, qui vivaient au mont Athos avec des petites communautés très saintes au XIXe siècle, et évidemment bien avant aussi, et aussi au début du XXe siècle. Donc il y avait, si vous voulez, un peu de tout. Hein, et il fallait savoir, évidemment, faire preuve de discernement pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes qui souvent d'ailleurs vivaient très retirées, cachées dans des lieux hérémitiques où elles ne se faisaient pas connaître. Et donc c'est actuellement l'image du mont Athos est parfois aussi noircie, parce que le mont Athos a parfois une réputation d'intégrisme, de rigidité dans la conservation de la foi. Mais
on dit la vigile de l'orthodoxie ou la citadelle assiégée de l'orthodoxie.
Oui, c'est vrai que
très critique vis-à-vis de
cette image-là. Mais ceux qui vraiment peuvent avoir des contacts avec les moines, voient que les moines sont extrêmement ouverts, extrêmement tolérants, et parfois beaucoup plus que le clergé que l'on trouve en dehors du mont Athos. Et donc c'est une image, si vous voulez, dont on a noirci, évidemment, certains côtés, mais qui a des côtés aussi positifs.
En lisant, on a vraiment l'impression qu'il y a les deux, de grands saints, de grands ascètes,
oui.
Et on va en parler, et puis qu'il y a une face plus sombre. Enfin, comme disait saint François de Sales, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
Oui, mais c'était surtout autrefois. Je veux dire, ça a été beaucoup dépassé, parce que maintenant, on a vraiment une nouvelle génération de moines, d'higoumènes. Il y a des petites communautés qui sont vraiment des communautés spirituelles, et je crois que cet aspect sombre qui avait été décrit par quelques livres dans les années 60 a quasiment disparu.
Alors, Jean-Claude Larcher, vous, quand vous êtes parti au mont Athos en 1974 et au cours de tous vos nombreux séjours, ce qui vous a intéressé, c'est ce que j'ai eu l'impression de découvrir en vous lisant, c'est vraiment la rencontre avec des pères spirituels. Vous y alliez, vous, jeune orthodoxe, désireux de mieux comprendre à la fois l'orthodoxie, mais surtout la dimension profondément spirituelle de l'orthodoxie, avec la prière du cœur, la prière de Jésus. On va en parler dans un instant. Mais parlez-nous d'abord du père spirituel. Vous avez rencontré beaucoup de moines qui avaient cette fonction, ce rôle du père spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un père spirituel dans la tradition orthodoxe?
Alors,
et notamment à l'Athos.
C'est très important d'avoir un père spirituel, parce que la spiritualité orthodoxe est une spiritualité qui est très approfondie, en tout cas si on veut la vivre comme telle, et qui exige un suivi. Parce que au fur et à mesure que l'on cherche à approfondir sa vie intérieure, qu'on cherche à lutter contre ses passions, à pratiquer les vertus, à prier selon le mode que privilégie la tradition spirituelle orthodoxe, qui est celle de la prière du cœur, on rencontre inévitablement des obstacles, si vous voulez. Et le rôle du père spirituel, c'est d'aider à franchir ces obstacles.
Qu'il a franchi lui-même avant
voilà,
vous.
Voilà, et qui peut apporter une aide parce que lui-même est passé par là, qui sait les difficultés qu'on rencontre et qui sait comment les vaincre. Et puis, dans la pratique de la prière, qui est quand même quelque chose d'assez spécial, il est très important aussi d'avoir une aide, un suivi. Bon, dans la vie spirituelle en général, il peut y avoir des moments de découragement. Le rôle du père spirituel est aussi d'aider à les surmonter, de redonner l'espoir, de redonner la force, de redonner le dynamisme. Alors, ce qui caractérise le père spirituel, évidemment, c'est que on doit lui manifester ses pensées, ses sentiments intérieurs pour qu'il puisse nous suivre. Et c'est quelque chose souvent qui se fait à travers la confession régulière et par des entretiens qui suivent la confession. Parce que, bon, dans l'Église orthodoxe, la confession n'est pas une simple énumération de péchés, mais c'est un dialogue qui permet aussi de voir les difficultés rencontrées et qui permet, justement, en les surmontant, de progresser avec l'aide du père spirituel. Donc, il y a ce rôle de paternité spirituelle assuré par le confesseur, un rôle de suivi que ne peuvent pas assumer vraiment les pères du Mont Athos parce qu'on ne peut pas évidemment être en contact de manière très régulière avec eux. On ne peut pas leur téléphoner. Maintenant, ça devient plus possible avec les moyens modernes, mais autrefois, c'était tout à fait impossible
de communiquer. Parce que, attendez, soyons clairs, ils sont pères spirituels aussi bien de moines qui vivent à Latos, ils accompagnent ces moines, mais voilà. Ils sont aussi pères spirituels de laïcs orthodoxes qui viennent de l'extérieur. Vous, c'était votre cas, vous veniez de France,
oui,
au
alors,
Mont Athos.
Donc, si vous voulez, au Mont Athos, on trouve des personnalités particulièrement charismatiques. On trouve des gens qui sont très avancés sur la voie de la sainteté, même qui sont des saints. Plusieurs des moines que j'ai rencontrés à l'époque ont été canonisés depuis.
Le père Paissos,
par exemple, le père Paissos, le père Ephrem de Katunakia, et ça va continuer. Bon, parce que évidemment, il y a toujours une progression dans la découverte de la sainteté de la part des institutions, et on entérine souvent la reconnaissance de la sainteté par les fidèles. C'est un processus qui est moins administratif que dans l'Église catholique, mais on suit beaucoup, si vous voulez, la vénération que les fidèles ont par rapport à ces personnalités. Alors, ces personnalités particulièrement charismatiques ont comme caractéristique qu'elles disposent d'un discernement, d'une capacité de discernement particulière. C'est-à-dire, ils ont souvent, ces moines, la capacité de lire dans le cœur, de voir les pensées secrètes des gens, de voir les orientations dont parfois les gens qui sont en face d'eux n'ont pas conscience. Mmh. Et donc, ils ont cette capacité de dénouer des liens, de donner aussi des orientations par rapport à des situations bloquées. Et donc le père spirituel athonite a une fonction particulière qui est une fonction supplémentaire par rapport à celle du père spirituel habituel. Il dispose, si vous voulez, de charismes qui lui permettent parfois de voir des choses que le prêtre de paroisse ne va pas voir.
Ils lisent dans votre cœur, ils lisent dans vos pensées, ils vous connaissent intimement.
Et il y a aussi une dimension prophétique. Souvent, ils sont capables de vous annoncer des événements futurs et parfois de les produire. C'est-à-dire que certains d'entre eux font des miracles par rapport à l'avenir ou par rapport au présent. Ils guérissent parfois des maladies, ils annoncent des choses qui vont se produire. Et donc cette fonction est quelque chose d'assez irremplaçable. Et c'est pour ça que ces personnalités saintes du Mont Athos attirent tant de monde autour d'elles, parfois des milliers de personnes qui se succèdent sans cesse, qui attendent devant leur cellule depuis 5 heures du matin et jusqu'à 10 heures du soir. Et ces saints reçoivent ces personnes avec à chaque fois la même attention, le même amour, et leur apporte une aide qui est vraiment perceptible, qui est vraiment sensible, c'est-à-dire qu'on ressort de là avec une transformation de l'âme.
C'est ce que l'on trouve en Inde dans certains ashrams avec des grands maîtres spirituels hindous, ou ce qu'on a trouvé dans le catholicisme avec Padre Pio ou certains saints de l'Église catholique qui attiraient les foules.
Voilà, c'est un phénomène un peu semblable du point de vue, effectivement, de la population importante qui approche ces saints pour en recevoir quelque chose qui va permettre de progresser dans la vie, on va dire, voilà. Or, s'agissant évidemment du Muathos, il s'agit de progresser dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, c'est là la spécificité.
Jean-Claude Larcher, en lisant vos carnets que vous publiez sur vos différents séjours au Mont Athos, on voit que vous avez eu envie de rencontrer ces pères spirituels, vous faites des portraits et vous êtes devenu l'un des spécialistes de ces pères spirituels du XXe siècle. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages pour les faire connaître ici en France, enfin en langue française. Et puis, vous rencontriez ces moines et ces pères spirituels pour les interroger sur la prière du cœur. Alors vous avez prononcé cette expression déjà plusieurs fois au cours de cet entretien, la prière du cœur, qu'est-ce que c'est dans la tradition orthodoxe ?
Alors on doit l'appeler plutôt prière de Jésus, et c'est à un stade déjà avancé qu'on l'appelle prière du cœur, c'est-à-dire quand le cœur est capable de, étant uni à l'esprit, de dire la prière spontanément et même la nuit, et même pendant le sommeil. C'est un état déjà avancé. Donc on appelle cette prière d'abord la prière de Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est une prière dont le centre est occupé par le nom de Jésus. C'est ce qui fait sa spécificité. C'est-à-dire qu'elle consiste dans une formule très courte, en l'occurrence « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur » sous la forme longue, ou simplement « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi » sous la forme brève. Mais le nom de Jésus occupe la place centrale.
Et ça, on le répète et on le
Alors,
répète.
Alors, c'est une formule qui se répète. Et on voit des gens qui, j'en décris, qui sont des moines, qui vraiment sont très avancés dans cette prière, qui la répètent des dizaines de milliers de fois dans la journée, et qui sont habités par cette prière aussi pendant toute la nuit.
Donc ça devient une prière perpétuelle.
Ça devient une prière perpétuelle, et c'est le but. Le but de cette prière, en fait, c'est de tourner constamment l'esprit, et ensuite le cœur uni à l'esprit vers Dieu, et d'être uni à Dieu en permanence. Et aussi, dans la vie quotidienne, de voir Dieu, de mettre Dieu partout, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait. Et c'est une spécificité de la spiritualité orthodoxe qui m'a beaucoup séduit. C'est, je dirais, j'étais catholique auparavant, jusqu'à l'âge de 20 ans, et un catholique pratiquant, mais j'étais attiré par l'orthodoxie d'abord par sa spiritualité, qui était beaucoup moins affective, beaucoup moins sentimentale que la spiritualité catholique, mais surtout qui avait cette capacité d'englober complètement la vie quotidienne et de pouvoir être introduite dans chaque acte, dans chaque pensée, dans chaque état intérieur, et de permettre justement une vie spirituelle absolument continue et non pas morcelée comme l'est la spiritualité, enfin comme l'est souvent la spiritualité des confessions chrétiennes, où il y a des moments forts, les moments de messe, de prière du matin, du soir, avant les repas, etc., mais qui en dehors de ça laisse l'esprit et le cœur vide ou avec simplement une orientation générale.
Mais donc là, si je vous entends bien, l'aspiration d'un orthodoxe qui veut entrer dans la prière de Jésus est vraiment de répéter cette prière en permanence dans sa vie quotidienne pour atteindre une prière perpétuelle.
Voilà.
C'est vraiment cela l'objectif.
Alors ça suppose d'abord un certain nombre d'exercices, c'est-à-dire des moments aussi long que possible pour la pratiquer, et en multipliant ces moments et avec le temps, si vous voulez, cette prière finit par devenir permanente. Mmh. Voilà. Donc, évidemment, plus quelqu'un est avancé dans la sainteté, plus cette prière est permanente. Mais il faut préciser aussi que la prière n'est pas le tout de la spiritualité. C'est-à-dire que pour que la prière joue vraiment son rôle, pour en recevoir une grâce, il y a toute une préparation intérieure qui est nécessaire, toute une vie qu'on appelle ascétique au sens large, c'est-à-dire de vie spirituelle, où il y a une lutte contre les passions pour purifier l'esprit et le cœur, de manière effectivement à ce que l'union à Dieu se fasse vraiment et que la grâce de Dieu soit vraiment reçue.
Mais cette pratique que vous me décrivez là, c'est la pratique que j'ai retrouvée dans de nombreuses traditions religieuses dans le monde. Les musulmans appellent ça le zikr.
Absolument.
On répète le nom d'Allah.
Absolument, surtout dans le soufisme.
Hein, dans le soufisme. Oui. Dans l'hindouisme, on appelle ça le japa.
Absolument, c'est le japa yoga.
Le japa
oui,
yoga,
tout à fait.
Et vous l'avez chez les Tibétains avec cette fameuse
Absolument,
prière Mani Padme Hum qu'ils répètent
en
permanence.
Oui,
c'est
oui,
une grande constante dans les grandes religions, j'ai
Absolument.
L'impression, cette prière.
Mais évidemment,
intérieure.
Ce qui fait la spécificité de la prière de Jésus, c'est que c'est Jésus qui est au centre. Ce n'est pas le vide, ce n'est pas une formule, ce n'est
pas
des divinités étrangères, c'est vraiment Jésus. Et ce qui est évidemment important pour un chrétien, c'est d'être uni à Jésus et pas à quelqu'un d'autre.
Bien sûr.
Et par lui au Père et par lui au Saint-Esprit. Donc c'est très lié à la spiritualité orthodoxe dans sa spécificité. Mais formellement, si vous voulez, en tant que technique, entre guillemets, c'est quelque chose qui a évidemment des analogues avec des pratiques d'autres religions.
Et alors, est-ce que le corps tient une place importante dans cette pratique spirituelle?
Alors, absolument, ça c'est tout à fait aussi une spécificité de la spiritualité orthodoxe en général. C'est la place reconnue au corps. Hein, c'est une place qui a été beaucoup mise en valeur par ce qu'on appelle la spiritualité hésychaste, qui est une précision apportée à la théologie et à la spiritualité orthodoxe au XIVe siècle par Grégoire Palamas et ses disciples, et qui ensuite s'est vraiment répandue à travers des œuvres de spirituels qui ont suivi et que l'on retrouve dans la Philokalie, qui est un recueil de textes de toutes les époques, mais qui sont centrés sur la prière et sur la vie spirituelle qui doit l'accompagner. Et donc, le corps joue un rôle parce que la spiritualité orthodoxe a toujours gardé profondément le sentiment et la sensation de l'union de l'âme et du corps, et du fait que le corps est un élément qui fait partie intégrante de l'être humain, qui a été évidemment sanctifié par le fait que le Christ s'est incarné, qui est valorisé par le fait qu'il est appelé à ressusciter à la fin des temps. Et c'est cette valorisation du corps, elle s'exprime dans la spiritualité orthodoxe de diverses manières, et notamment dans les services liturgiques. Si vous allez dans une église orthodoxe, vous voyez que les orthodoxes prient beaucoup aussi avec leur corps. Ils multiplient les signes de croix, les prosternations sous différentes formes. Et c'est une manière aussi de faire prier le corps avec l'âme. Et dans la prière de Jésus, le corps joue un rôle important, dans la mesure où évidemment la prière suppose une certaine posture qui peut être d'ailleurs variable. Il y a une grande tolérance, on peut être assis, on peut être debout, on peut être assis sur un petit tabouret, sur une chaise normale, debout, on peut prier à genoux, mais il est important que le corps ait une certaine immobilité, une certaine stabilité pour pouvoir justement permettre aussi à la prière de s'exercer intérieurement dans le calme requis.
Mais il y a également les pratiques de prosternation.
Oui, alors les moines sont tenus par exemple à un nombre fixe de prosternations de l'ordre minimum de 300, mais certains en font beaucoup plus dans la journée.
Et là, ils s'allongent complètement par terre, c'est
alors,
debout, à genoux,
il y a plusieurs
allongés.
Types de prosternations qu'on rencontre aussi dans la pratique liturgique des fidèles. Hein, c'est-à-dire, il y a la petite prosternation où l'on penche le buste en touchant la terre avec l'extrémité de la main droite. Il y a les inclinations aussi, qui sont simplement des inclinations du buste. Et puis, il y a les grandes prosternations où vraiment on met d'abord les genoux, puis les mains et la tête sur le sol et où on se relève.
Et en même temps, on récite la prière de Jésus.
Et en même temps, on récite la prière, hein, mais ça n'occupe pas évidemment la totalité de la pratique de la prière, ça l'accompagne à certains moments. Et il y a aussi comme forme de participation du corps le rôle de la respiration. La plupart du temps, la pratique de la prière s'accompagne d'un rythme qui se fonde sur la respiration. Certains ascètes rythment la prière sur le cœur, mais c'est déconseillé parce qu'il faut vraiment un suivi très particulier, parce qu'évidemment, agir sur le rythme cardiaque, ça peut avoir des conséquences très graves. Mais c'est beaucoup plus facile de rythmer la prière sur la respiration avec la première partie sur l'inspiration, la deuxième partie sur l'expiration. Et donc, c'est aussi une forme de participation du corps à la prière.
Jean-Claude Larcher, le but de cette prière, c'est quoi? C'est la pacification du mental, c'est la pacification du cœur, c'est la pacification de nos passions, comment vous formuleriez?
Oui, alors,
le but vraiment de cette prière.
On va dire
Jésus.
Que tout ce que vous avez dit est un effet de cette prière. Hein, c'est-à-dire que les analyses médicales physiologiques qui ont été faites montrent que la prière de Jésus a, sur le plan physiologique, les mêmes effets bénéfiques que la méditation en pleine conscience, dont on parle beaucoup, qui est très à la mode actuellement. Hein, c'est-à-dire que on peut constater donc un effet de pacification intérieure pour le corps et pour l'âme, mais c'est pas le but. C'est là justement la grande différence qu'il peut y avoir avec d'autres pratiques. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'être uni à Dieu et en confessant Dieu, parce que quand on commence dans la première partie de la formule à dire « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu », donc on reconnaît que par le mot « Seigneur » que Jésus est Dieu, par le mot « Jésus-Christ » qu'il est à la fois Dieu et homme, et Fils de Dieu qu'il est le Fils de Dieu. Donc c'est une confession de la foi qui est très importante.
C'est un credo en fait, c'est un credo.
C'est une sorte de credo résumé. Et « aie pitié de moi » ou « aie pitié de moi pécheur », c'est évidemment une demande d'aide que l'homme adresse à Dieu, et en se reconnaissant pécheur. Bon, quand la formule pécheur est omise, qui est le cas dans la formule courte, le mot « aie pitié de moi » signifie déjà une reconnaissance de sa faiblesse, une reconnaissance de son insuffisance. Donc c'est déjà une expression d'humilité à laquelle pécheur ne fait que ajouter quelque chose qui est déjà, quelque chose d'explicite qui avait déjà été sous-entendu. Et donc, si vous voulez, la prière permet à l'homme de se placer devant Dieu, qui est confessé comme tel, dans une attitude d'humilité et dans une demande d'aide. Et dans tout ça s'établit, et c'est ça qui est fondamental, une certaine relation avec Dieu. La prière, c'est un mode...
Une relation d'amour, une relation de crainte.
Alors,
je suis pécheur, je suis indigne.
Alors, c'est plutôt une relation d'amour, mais qui s'accompagne d'humilité et d'un sentiment de son indignité par rapport à Dieu, une reconnaissance de la grandeur de Dieu et de sa propre faiblesse, de sa propre insuffisance.
Et pourquoi c'est aussi important ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens modernes aujourd'hui qui disent « mais chez les chrétiens, vous êtes toujours en train de vous flageller, toujours en train de dire que vous êtes pécheur, indigne. »
Il ne s'agit pas de flagellation, mais il s'agit de reconnaître en fait son insuffisance, sa faiblesse, le besoin qu'on a de l'aide de Dieu, et en même temps d'être humble, parce que quand on est plein de soi-même, l'Esprit Saint ne peut pas entrer, il n'y a pas de place pour lui. Si on veut que la grâce de Dieu entre en nous, on doit se vider de soi-même, si vous voulez, se vider de son ego. Et c'est là que, justement, que l'humilité, la conscience de son péché en général, c'est-à-dire de sa faiblesse ontologique même, et pas seulement morale, joue un rôle extrêmement important.
Ontologique, c'est-à-dire au plus intime,
oui,
au plus profond de soi. Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire là, ça m'aide à comprendre la dimension ascétique. Au mot Athos. Parce que ce qui frappe en vous lisant, c'est qu'on voit combien ces moines du mot Athos, jeunes, se lèvent la nuit pour prier. Il y a une dimension ascétique, comme on dit, qui est vraiment forte, avec des pénitences. Comment comprendre ça? À quoi ça sert que des hommes, pendant des décennies, pendant toute leur vie pratiquement, vivent des ascèses aussi fortes?
Alors, bon, il s'agit de se détacher des passions, c'est-à-dire de toutes les formes d'attachement au monde, mais aussi à son ego, à soi-même. Et évidemment, nous avons en nous-mêmes des instincts très forts qui sont particulièrement marqués sur le plan de l'attrait pour la nourriture et des pulsions sexuelles, si vous voulez. Et toutes ces pratiques ascétiques ont en partie pour but d'arriver à une maîtrise parfaite de ces pulsions, à les éteindre, ne plus du tout ressentir ces pulsions sexuelles, ne plus dépendre de la nourriture, user de la nourriture comme de quelque chose qui maintient la vie et la santé, mais pas...
Et on peut y arriver.
De quelque chose...
ça ressort pas, là, quand on presse dessus, quand on...
Mais écoutez, c'est une question d'habitude aussi. À force de vivre dans cet état, d'avoir cet entraînement, c'est comme l'entraînement d'un athlète, si vous voulez. Vous savez, le mot ascèse, ça vient du mot askésis, qui veut dire exercice. Et très souvent, le mot « athlésis » qu'a donné en français « athlète » est considéré comme un équivalent du mot « askésis » en grec, c'est-à-dire c'est comme l'entraînement d'un athlète. On est capable de franchir des obstacles et d'acquérir des aptitudes, si vous voulez, qui sont relativement permanentes, à condition d'avoir fait suffisamment d'exercices et aussi de les entretenir. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a l'aspect aussi de l'apport du jeûne par rapport à la vie spirituelle. C'est-à-dire que c'est un fait connu pour ceux qui pratiquent le jeûne, même, je dirais, en dehors de la vie spirituelle, puisque c'est une mode aussi aujourd'hui de faire des stages de jeûne. On voit combien ça allège l'esprit, combien l'esprit n'est plus soumis aux impératifs du corps, combien, si vous voulez, l'esprit devient aussi plus aigu, comment il devient plus vif, comment il est considérablement allégé. Et ça, c'est une pratique qui va beaucoup favoriser la prière et la vie spirituelle en général.
Les moines du Mont Athos jeûnent beaucoup, hein. Il y a des jeûnes liturgiques.
Alors, tous les fidèles orthodoxes sont soumis se soumettent, parce qu'on est libre de faire ou pas faire, mais se soumettent à des jeûnes. Il faut savoir que dans l'Église orthodoxe, plus de la moitié des jours de l'année sont des jours de jeûne.
Quand vous dites jeûne, c'est pas ne pas manger du tout.
Alors, c'est pas ne pas manger du tout, parce qu'autrement on meurt si on mange pas du tout. on ne peut, si on ne mange pas du tout, ça existe aussi de faire des jeûnes complets, mais ça ne dure que quelques jours. Mm-hmm. Mais c'est la privation de certains aliments. Alors, il faut savoir qu'au Mont Athos, les moines ne mangent jamais de viande. La viande, dès qu'on devient moine, d'ailleurs dans l'orthodoxie, en dehors du Mont Athos aussi, on dit totalement adieu à la viande. Et donc, ils se nourrissent de poissons, de fromages, d'œufs, et puis évidemment de légumes. Mais pendant les périodes de jeûne, et selon les périodes, on enlève certains de ces aliments. Et par exemple, le jeûne le plus strict, c'est celui de la quarantaine avant Pâques. Ce qu'on appelle le grand carême. C'est une période où tous les fidèles orthodoxes s'abstiennent non seulement de viande, mais de fromage et de produits laitiers, d'œufs, de poissons, mais aussi d'huile et de vin. Et donc, c'est un jeûne vraiment très strict. Il y a aussi une quarantaine de jours de jeûne avant Noël, c'est le jeûne de l'Avent qui existait aussi dans le catholicisme autrefois. C'est un jeûne un peu moins strict parce que on peut manger les samedis, les dimanches du poisson, mais pas de fromage, pas d'œufs, etc. Et on peut consommer de l'huile et du vin les samedis et les dimanches. Et puis, il y a des périodes où le jeûne est encore plus relâché. Par exemple, le jeûne des apôtres au mois de juin, où eux. Alors le jeûne de la dormition, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'Assomption dans la tradition catholique, est un jeûne de 15 jours qui lui aussi est très strict. Et tous les mercredis et tous les vendredis, il y a ce jeûne strict, si vous voulez, sans poisson, viande, œufs, produits laitiers, huile et vin. Et donc ça, si on totalise les jours de jeûne, comme je vous le disais, ça fait plus de la moitié de l'année. Et donc, ce que font les moines, c'est ce type de jeûne. Mais en outre, au mercredi et au vendredi, ils ajoutent le lundi comme jour de jeûne. Et puis, pendant certaines périodes, ils s'abstiennent totalement de manger, mais pour plusieurs jours. Par exemple, pendant les 3 ou les 5 premiers jours du Grand Carême, ils ne mangent pas du tout et ne boivent pas du tout.
Jean-Claude Larchet, j'aimerais qu'on parle maintenant de la relation à la mort, du rapport à la mort au Mont Athos. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Allez, je vais vous faire un petit témoignage, puisque j'ai eu la chance d'aller au Mont Athos en 1978, et je suis arrivé dans un skit que vous connaissez, une petite communauté de moines, qui s'appelle Skiti Agiana.
Oui.
Et là, le moine m'a accueilli, comme les moines font très généreusement quand vous arrivez. Il vous offre un peu de café, un loukoum, de l'eau, bien sûr. Et puis très rapidement, il a ouvert un placard qui était derrière lui et il a sorti un crâne qu'il a posé sur la table, puis un deuxième qu'il a posé sur la table et un troisième. Et il m'a présenté les moines qui étaient ses prédécesseurs dans ce skit. Et il a éclaté de rire et il a dit « le prochain, ce sera moi ».
Oui.
J'avais 18 ans, ça m'a profondément marqué, et je me suis dit, mais quel rapport ces hommes ont à la mort? Quelle liberté ils ont face à la mort? J'aimerais que vous nous en parliez.
Oui, alors, dans chaque monastère aussi, il y a un ossuaire où sont rassemblés les crânes et les os des moines qui ont vécu dans le monastère, avec leur nom qui est inscrit sur le front. Et parce que il faut savoir que d'abord, lorsqu'un moine meurt, on l'enterre, et puis que après une certaine période, on exhume ses ossements, on les lave et on les range dans l'ossuaire. Et donc les moines ont vraiment devant les yeux les reliques de leurs prédécesseurs, alors que nos prédécesseurs, on voit seulement leur tombe, ils sont sous terre, on ne sait pas comment ils sont, on en a une représentation à travers les souvenirs qu'on en a, mais là c'est très différent, ça donne effectivement une vision très concrète de la mort. Mais dans l'Église orthodoxe, si vous voulez, enfin dans la pratique spirituelle, il y a une pratique très importante qui est celle de la mémoire de la mort, c'est-à-dire se souvenir chaque jour qu'on est mortel, et même, c'est un conseil que donnent beaucoup de pères, vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Et ça permet de donner à chaque jour une intensité extraordinaire. C'est-à-dire, si vous imaginez que peut-être demain, vous disparaîtrez, alors vous n'allez pas vivre aujourd'hui de la même façon. Vous allez le vivre intensément. On sait, par exemple, que les gens à qui on annonce qu'ils ont un cancer qui peut être fatal dans les prochaines semaines, les prochains mois, vont avoir une vie beaucoup plus intense, vont percevoir la réalité d'une manière beaucoup plus fine, en essayant de profiter de chaque moment, de voir la valeur de chaque être, de chaque chose. Et c'est au fond ce qui se passe à travers cette pratique de la mémoire de la mort. Et puis, il faut savoir aussi que la mort est quelque chose de très relativisé pour un moine. Parce que, comme me le disait une fois un moine, dont je cite le témoignage dans mon livre d'ailleurs, nous les moines, nous n'avons pas d'avenir. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous entrez au monastère, votre avenir n'est plus dans le monde, donc vous n'avez plus à vous inquiéter pour une famille, pour des enfants, pour une épouse, pour un époux, pour les biens que vous avez accumulés, comment ils vont se transmettre, pour l'héritage que spirituel ou intellectuel ou culturel que vous allez donner à vos enfants, ou pour toutes sortes d'autres choses qui préoccupent un laïc vivant dans le monde. Leur horizon, pour eux, c'est l'au-delà. dans lequel il commence à vivre dès maintenant. Au mont Athos, justement, ce qui frappe un visiteur qui est vraiment immergé pour un certain temps dans la vie spirituelle, c'est ce côté céleste des services liturgiques. On se dit parfois, mais pourquoi tant de luxe, pourquoi tant de lumière, pourquoi tant
de faste,
etc. Mais parce que tout simplement, la liturgie, c'est un symbole de ce qui adviendra à la fin des temps. C'est un symbole d'ailleurs de toute l'économie salvatrice du Christ, de tout ce que le Christ a fait pour nous depuis son incarnation jusqu'à sa remontée finale dans les cieux. Et aussi, c'est une image, avec évidemment ce qu'il y a de faible dans une image par rapport au modèle, mais aussi de significatif, une image du royaume des cieux. Et les moines, la vie monastique est souvent appelée la vie angélique. L'habit monastique s'appelle l'habit angélique, parce que les moines qui se sont détachés de toutes les contingences du corps, de toutes les contingences de la chair, de toutes les contingences matérielles, mènent déjà en partie la vie des anges dans le ciel.
Mais Jean-Claude Larcher, je vais me faire l'avocat du diable. Certains vous écoutent et vont dire, mais ces moines, ils renoncent à la vie. Ils s'enferment sur cette presqu'île, ils n'auront jamais de femme, ils n'auront jamais d'enfants. Il passe à côté de la vie, en voulant déjà être dans l'au-delà.
Alors, tout dépend de ce qu'on entend par la vie. Vous savez, pour eux, la vie dans le monde, c'est quelque chose qui n'est pas la vraie vie. Évidemment, on peut mener dans le monde une vie authentiquement chrétienne, mais il y a aussi beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés qu'on ne rencontre pas dans la vie monastique et qui font qu'on ne peut pas mener dans le monde une vie chrétienne aussi profonde, aussi pleine, aussi intègre, aussi totale, aussi stricte que dans un monastère. Et évidemment, pour un chrétien, pour un vrai croyant, la vraie vie, c'est la vie que le Christ a apportée, c'est la vie qu'on mène, c'est pas la vie biologique, c'est pas la vie sociologique, mais c'est la vie spirituelle qu'on mène dans l'Église et dans la communauté et à laquelle on a accédé par le baptême, qui est une nouvelle naissance, qui nous fait vivre dans une autre dimension. La vraie vie, c'est donc pas la vie que les gens du monde considèrent comme la vie. C'est une vie qui se situe à un autre niveau. Et donc, on peut répondre, si vous voulez, aux objections que vous faites, que c'est ce que vous direz d'ailleurs à moins de atonite que vous pourriez interroger. Il vous dirait, eh bien, c'est dans le monde que vous ne vivez pas la vraie vie. C'est ici qu'en revanche, on la vit.
Alors, Jean-Claude Larcher, vous êtes très discret, en fait, dans vos carnets. Vous parlez beaucoup plus des autres que de vous-même. Mais j'ai quand même envie de vous poser la question. Vous qui êtes allé jeune au mont Athos, pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas resté? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenu moine?
Vous savez, tout le monde n'est pas destiné à se marier. C'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent moines. Et tout le monde n'est pas destiné à devenir moine. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui se marient.
Donc vous avez fait le choix de vous marier.
Alors, j'ai longtemps hésité, si vous voulez. Et c'est vrai que j'étais assez attiré quand j'étais jeune, parce que j'étais très attiré par la spiritualité orthodoxe dans toute sa profondeur, par une vie monastique qui m'aurait permis de la mener. Mais donc j'ai hésité un certain nombre d'années. Et puis, en fait, mon propre père spirituel, qui était d'ailleurs un homme très saint, un homme excellent, a toujours refusé de me dire que je devais m'orienter dans telle voie ou dans telle autre, parce que il voulait me laisser une liberté totale. Le
Ça
vrai père
le
spirituel,
bon spirituel,
c'est celui qui n'impose rien, mais qui regarde croître son fils spirituel dans la liberté, qui le guide simplement sur les chemins de la liberté qu'il a choisi. Et quand je suis allé voir le père Paisios, je suis allé le voir deux fois, maintenant Saint Paisios, donc 4 ans après ma première venue, après avoir vu des millions de gens, il se souvenait parfaitement de ma situation. Non pas parce que j'étais quelqu'un d'extraordinaire qui lui avait laissé un souvenir impérissable, c'était la même chose pour tout le monde, parce qu'il avait un tel amour pour chaque personne qu'il rencontrait, que cette personne restait gravée dans son cœur. Et donc, il était capable, il avait ce charisme de pouvoir se souvenir de tout ce que la personne lui avait dit, de sa situation spirituelle, mais aussi familiale, professionnelle. Et quand je suis allé le voir pour la deuxième fois, il m'a dit « Je suis triste que vous vivez seul ». Il m'a dit « C'est dur pour vous, je le sens ». Et il m'a dit en plaisantant « Écoutez, je suis peiné tellement par votre situation que quand vous allez quitter le Mont-Athos, je vais venir avec vous pour aller vivre dans votre maison pour vous aider à supporter cette situation. Parce que c'était aussi quelqu'un qui avait énormément d'humour, mais aussi énormément d'amour, parce que ça exprimait vraiment sa compassion. Et il m'a dit, écoutez, cette situation, vous allez en sortir. Dans 2 mois, vous allez recevoir de moi une lettre sans timbre. Et il se trouve que 2 mois exactement après qu'il ait prononcé cette parole, j'ai rencontré mon épouse avec laquelle je me suis très rapidement marié. Donc c'est un cadeau du Père Païsios.
Jean-Claude Larcher, vous parlez à la fin de votre livre de la dimension prophétique du Mont Athos. En quoi, selon vous, ce lieu très particulier de l'orthodoxie a une dimension prophétique pour le monde et pour tout le monde, orthodoxe ou non?
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons, je dirais, extérieures et des raisons intérieures. Extérieurement, c'est un lieu qui est totalement préservé sur le plan de la nature. Donc, c'est vraiment un témoignage écologique exceptionnel dans le monde d'aujourd'hui. C'est une zone où vraiment il n'y a aucune industrialisation, aucune agriculture intensive. La nature est restée parfaitement intacte. Et relativement aux préoccupations actuelles, c'est vraiment un témoignage extraordinaire. Il y a d'ailleurs beaucoup d'écologistes qui vont au Mont Athos, qui vont s'inspirer des méthodes qui sont utilisées là-bas pour préserver la nature, pour les appliquer à l'extérieur. Plus intérieurement, il y a une dimension prophétique parce que, vous savez, on est maintenant dans un monde totalement instable, dans ce qu'on a appelé une société liquide où tout se dissout, les identités disparaissent, où tout se mélange, où tout se globalise, où il n'y a plus vraiment pour les gens de repères. Les valeurs se dissolvent, disparaissent, s'anéantissent mutuellement. Il y a une déconstruction qui est faite, non seulement dans le domaine de la philosophie, mais de la théologie, et qui affecte profondément les repères que l'homme contemporain a. Or, le fait de trouver un pays, une région, un endroit où il y a une stabilité depuis plus de 1000 ans, où les valeurs sont restées les mêmes, où on arrive à se développer spirituellement beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite que dans tout autre endroit, et où on voit des moines qui sont des gens extrêmement heureux, qui n'ont pas tous les problèmes de dépression qu'on rencontre aujourd'hui maintenant dans une grande partie de la population des civilisations développées occidentales, c'est quelque chose qui constitue vraiment un beau témoignage. Et de voir ces saints, ça montre vraiment une incarnation réussie du christianisme, parce que on voit que les promesses du Christ, les devoirs de perfection qu'il donne à l'homme, qui paraissent souvent inatteignables, bien ont été réalisés par certaines personnes. Et je crois que vraiment une des choses qu'on retient du Mont Athos, ce sont ces rencontres avec ces personnages extraordinaires que sont les saints, qui ont réussi à mener l'humanité à son plus haut degré de développement, à son plus haut degré d'épanouissement, et qui donne justement l'impression d'une humanité vraiment développée, parce que c'est une humanité qui a réussi à se conjuguer avec la divinité à travers l'apport de la grâce.
Merci beaucoup Jean-Claude Larcher. En vous écoutant, on a tous envie d'aller au Mont Athos. Alors je tiens quand même à dire que ce n'est pas facile, que c'est d'abord interdit aux femmes, malheureusement, c'est encore la réalité, c'est encore la loi du Mont Athos qui peut être discutée, bien sûr. Et puis il faut des autorisations spéciales, notamment pour les non-orthodoxes. Mais pour ceux qui ne pourront pas aller au Mont Athos, je les renvoie à votre livre, Mont Athos Carnet 1974-2015, que vous avez publié aux éditions des Sirtes et qui nous font rencontrer certains de ces saints du Mont Athos. Merci beaucoup Jean-Claude Larcher.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.